journal de Florence Paracuelos, bonjour.
Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Pourquoi attendre alors que le feu vert est donné? Les plus de 65 ans décontenancés, ils ont tenté hier d'aller se faire vacciner sans rendez-vous, mais souvent ça n'a pas marché. Vichy, sous-préfecture de l'Allier, ses thermes, son casino, son opéra, mais c'est surtout le régime de Pétain qui colle à l'image de la ville. Elle aimerait bien s'en débarrasser. Nous y serons dans un instant avant la visite d'Emmanuel Macron. Le Saoudien arrêté hier en France a-t-il participé à l'assassinat de Jamal Khashoggi? Le royaume affirme qu'il s'agit d'un homonyme. Et puis les inégalités dans le monde, pas d'amélioration ces 130 dernières années. Terrible constat dans le grand entretien ce matin, Nicolas.
Oui, un constat que dressent les deux économistes Gabriel Zucman et Lucas Chancel. Ils seront à notre micro dans une vingtaine de minutes avec Léa. Appelez-nous dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal aussi, cohabiter avec les ours, question toujours sensible dans les Pyrénées. La Sagrada Familia, chef-d'œuvre de Gaudi à Barcelone, une 9e tour inaugurée aujourd'hui, 9 sur 18. Et puis au frais, les aventures d'Antoine Doinel. Ce sera l'idée cadeau de notre calendrier de l'Avent ce matin.
France Inter.
C'était la bonne nouvelle de Jean Castex. Lundi soir, les plus de 65 ans allaient pouvoir se faire revacciner sans rendez-vous, au moment où chacun cherche sa dose de rappel. Les aînés avant les autres, très bien, qui ont donc tenté le coup dès hier. Seulement voilà, ça n'est pas aussi simple que cela. Reportage en Ille-et-Vilaine, signé Pierre-Antoine Lefort, France Bleu Armorique.
Quand elle se rend au centre de vaccination du centre commercial Alma à Rennes, Annette, qui a bien écouté Jean Castex, fait face à une sacrée déconvenue.
La dame à l'accueil m'a dit, mais non, j'ai pas de dose du tout. Je trouve ça un peu aberrant qu'on fasse des annonces et puis que les effets ne suivent pas derrière, quoi. C'est ça. Hein.
À 66 ans, Annette comptait sur cette ouverture sans rendez-vous.
Les créneaux, c'est janvier, donc j'ai des parents qui sont âgés, qui ont plus de 90 ans à Noël, donc je me disais, je vais me faire vacciner, puis voilà, non.
Le centre lui conseille de retenter sa chance en fin de journée et le cas d'Annette est loin d'être isolé. À Saint-Grégoire, là aussi, ils sont nombreux à se faire refouler.
Concrètement, il y a une vingtaine de personnes qui sont arrivées en disant, le Premier ministre a annoncé qu'on pouvait se faire vacciner sans rendez-vous, donc vaccinez-nous.
Pierre Breteau est le maire de Saint-Grégoire.
Et donc on a dû répondre non, donc les gens n'étaient pas très contents.
Si l'élu ne conteste pas du tout la décision, il regrette, encore une fois, un manque de concertation.
Ce que je voudrais, c'est que nous soyons, nous, maires, qui mettons à disposition des moyens respectés aussi et qu'il y ait un délai de 24 heures entre une annonce et sa mise en œuvre pour qu'avec l'ARS, on ait le temps de s'organiser. On a ouvert le centre de vaccination sans aucune autre consigne, sans dose supplémentaire.
Et même en cas de dose supplémentaire, il faudra alors pousser les murs et mobiliser plus de personnel pour dépasser les 280 vaccination possible par jour à Saint-Grégoire.
Les décisions prises à Paris, mal vécues par ceux qui sont chargés de les appliquer sur le terrain, c'est une constante. Que mesure Emmanuel Macron à portée d'engueulade, comme il le dit lui-même au cours de ses déplacements. Le président à Vierzon hier, au contact des Français, puis dans la soirée au conseil municipal du village de Château-Meillan, toujours dans le Cher. Aujourd'hui, ce sera l'Allier et Vichy. Valéry Giscard d'Estaing y était brièvement passé en 1978, mais aucun président ne s'y est attardé depuis le général de Gaulle, parce que Vichy, inévitablement, reste associé au régime de Pétain. Bonjour Béatrice Duguay.
Bonjour.
Vous êtes sur place dans une ville qui aimerait pouvoir tourner cette page de l'histoire.
Pendant 4 ans sinistres, effectivement, Vichy a été la capitale de la France. 4 ans qui occultent le reste de l'histoire de la ville, se désole Alexandre, vichyssois de 27 ans.
On a encore quand même certaines brimades, comme les vichyssois, c'est les dénonciateurs. Mais c'est bon, il faut retenir que c'est un gouvernement qui s'est installé. C'est pas les vichyssois, eux, qui ont accepté qu'ils s'installent.
Pourtant, pour Pascal, qui vient admirer l'architecture Napoléon III, l'expression sert d'aide-mémoire utile.
Le terme « régime de Vichy » convient parfaitement. Il ne faut pas oublier cette période-là. Lorsqu'on voit un peu la montée des fronts populistes, on a tout intérêt à ne pas tenter de l'effacer.
La terre ocre, tout juste déposée, la latérite, trahit une partie du parcours d'Emmanuel Macron dans Vichy ce soir, sur les traces de ce régime. À coup sûr, le chef de l'État s'arrêtera sur le parvis de l'Opéra, là où une plaque liste les 80 députés qui ont refusé les pleins pouvoirs à Pétain. Arrêt aussi devant la stèle aux déportés juifs de la ville. Enfin, dit Michèle London, la présidente de l'association cultuelle israélite de Vichy et de sa région.
On attendait la venue d'un président depuis de nombreuses années. Donc on est très honoré que le président Macron vienne à Vichy faire ce devoir de mémoire et reconnaître la responsabilité du gouvernement de Pétain et pas de Vichy.
Emmanuel Macron passera ce soir tout près du bureau où Pétain a scellé le statut des Juifs en octobre 40. Une manière, estime le maire de la ville, de convenir que ce passé est celui de la France et pas juste celui de Vichy.
Béatrice Duguay en direct de Vichy, dont le régime a protégé les Juifs français des nazis, selon Éric Zemmour, à rebours des travaux des historiens. Le candidat d'extrême droite agrippé par un homme est blessé au poignet dimanche, juste avant de monter sur la scène du parc des expositions de Villepinte. La justice a retenu plus de 8 jours d'ITT. Et cet homme sera présenté aujourd'hui à un juge d'instruction qui décidera de la suite à donner à cette affaire.
France Inter, il est 8h06. Paris doit-elle être mise sous tutelle?
C'est Anne Hidalgo, candidate socialiste à la présidentielle, qui est attaquée sur sa gestion de la capitale avec une procédure lancée par plusieurs associations qui lui reprochent, Antoine Gignot, d'avoir fait flamber la dette.
Au total, la dette avoisine 8 milliards d'euros, expliquent les représentants des associations qui saisissent la Cour régionale des comptes et le préfet de Paris pour leur demander de retirer tout pouvoir à l'équipe municipale en place. Le temps de faire un état des lieux, explique François Valin, le président de l'association Rouler Libre.
Il est temps qu'en fait la gestion soit vraiment clair. Aujourd'hui, on a des sommes monumentales qui partent. On ne sait pas exactement où, on ne sait pas comment. La première priorité, c'est surtout remettre ça à plat et dépenser de l'argent intelligemment pour vraiment les choses dont on a besoin.
Un message aux allures d'attaque politique au moment où Anne Hidalgo se présente comme la candidate d'une gauche de gouvernement capable de gérer un pays. Mais les responsables d'associations se défendent de vouloir intervenir dans la campagne présidentielle, tout comme les élus de droite qui soutiennent la procédure. L'image de Rachida Dati et Florence Berthoud, la maire du 5e arrondissement.
Franchement, il n'y a pas d'instrumentalisation. Nous avons toujours dénoncé cette course effrénée à l'endettement. C'est près de 3500 euros de dette par habitant. Madame Hidalgo a démontré à Paris qu'elle ne savait pas gérer une grande ville.
À la mairie de Paris, on répond que l'épidémie de Covid a alourdi les dépenses. La candidate Hidalgo, elle, ne fait pas de commentaires. Son entourage lâche sobrement. Désormais, tous les coups sont permis.
Anne Hidalgo, Jean-Luc Mélenchon, Fabien Roussel, Yannick Jadot, Arnaud Montebourg. Il y a du monde à gauche pour cette présidentielle. Trop de monde pour Arnaud Montebourg, qui appelle ce matin dans Libération à l'unification des forces autour d'un candidat commun, en brandissant le péril d'une probable victoire de l'extrême droite.
Il est 8h08. Qui est le Saoudien qui a été arrêté hier à Roissy-Florence et placé en rétention?
Est-ce l'un des membres du commando qui a assassiné le journaliste Jamal Khashoggi il y a 3 ans à Istanbul, ou bien un homonyme, comme l'affirme l'ambassade d'Arabie Saoudite en France? Le véritable coupable serait déjà dans une prison du royaume. Alors question, Emmanuel Leclerc, est-il possible qu'il y ait erreur sur la personne?
L'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris affirmait hier soir qu'il n'avait rien à voir avec cette affaire Khashoggi. On parle d'un possible homonyme car Al-Otaïbi est un nom très commun. Mais hier matin, les agents de la police aux frontières à Roissy n'ont pas tapé son nom de famille sur un clavier d'ordinateur. C'est bien le scan du passeport qui a déclenché l'alerte et activé la fiche rouge Interpol. Et donc ça signifie que c'est ce même passeport que les autorités turques avaient identifié il y a 3 ans lors de leur enquête sur l'assassinat de Jamal Khashoggi. Le suspect était arrivé quelques jours avant le meurtre à Istanbul. Le mandat d'arrêt lancé contre lui contient donc cette fiche avec le passeport et les éléments biométriques qui s'y rattachent. Dans tous les cas, la rétention administrative de ce Khalid Al-Otaïbi peut durer jusqu'à ce soir pour permettre justement aux policiers de vérifier qu'il s'agit bien de la bonne personne. En revanche, il est quand même très étonnant que cet homme, s'il a vraiment participé à cette opération, un assassinat ciblé à l'étranger, en Turquie en l'occurrence, continue de voyager avec ses vrais papiers, en tout cas avec ceux qu'il a présentés il y a 3 ans à Istanbul.
Emmanuel Leclerc, d'une dissidence l'autre, on célèbre aujourd'hui les 30 ans de la disparition de l'URSS. C'était le 8 décembre 1991, quelques jours avant la démission de Gorbatchev. Journée très particulière pour des milliers de victimes politiques du régime soviétique. L'une d'entre eux se souvient au micro de Sylvain Tronchet.
Elena Sanikova avait 32 ans en 1991. Parce qu'elle avait fait circuler des livres sous le manteau, cette mère de famille avait été internée de force, puis assignée à résidence en Sibérie. Ce 8 décembre est une date qu'elle n'a pas oubliée.
Je me souviens que je venais d'avoir ma fille, qui est née le 19 novembre. Je lui avais donné le bain, je suis sortie de la salle de bain avec elle dans les bras. Et là, dans la cuisine, mon mari et ma mère m'ont dit que la radio avait annoncé que l'Union soviétique avait cessé d'exister. J'ai regardé ma fille et je lui ai dit tu ne vivras pas en Union soviétique.
30 ans plus tard, la réhabilitation des dissidents n'a souvent été que partielle. Et les cérémonies se réduisent, explique Elena Sannikova.
À l'époque, le 30 octobre, pour la journée de commémoration des victimes de la répression politique, il y avait des représentants du pouvoir qui venaient et qui disaient « plus jamais ça ». Mais depuis 5 ou 6 ans, la ligne politique sur le sujet a changé et les officiels ne viennent plus à ces cérémonies.
Aujourd'hui, le discours officiel tend à réhabiliter l'Union soviétique, dont la dislocation a été, d'après Vladimir Poutine, la plus grande catastrophe géopolitique du XXe siècle. Moscou, Sylvain Tranchet, France Inter.
Pas d'officiel américain aux Jeux de Pékin en février. Il n'y aura pas non plus d'Australiens. Canberra suit Washington dans son boycott diplomatique des Jeux Olympiques organisés par la Chine. À Sanary-sur-Mer, une deuxième victime a été retrouvée ce matin sous les décombres de l'immeuble qui s'est effondré hier. Une femme de 82 ans qui n'a pas survécu et dont le fils est toujours porté disparu. La peur de l'ours au menu d'une réunion à Toulouse aujourd'hui. Il y a 3 semaines, un chasseur avait été mordu en Ariège et l'on se demande toujours comment améliorer la cohabitation entre les hommes et la 60aine de plantigrades qui vivent dans les Pyrénées. Un préfet a été spécialement nommé pour y parvenir, chargé de renouer le dialogue entre les anti- et les pro-ours, ce qui n'est pas gagné dans l'Ariège, Agathe Mahuet.
Là, c'est une mère avec 2 petits en train de pêcher dans un torrent.
C'est ce qui s'appelle avoir l'ours dans la peau. Florent Antras se les fait tatouer sur l'avant-bras. Lui qui rêve de réconcilier l'homme et l'animal. Accompagnateur en montagne, il informe dès que possible ses amis chasseurs sur sa présence.
Je passe mon temps à trouver des indices. Je leur dis, attention, il y a des traces dans la neige à cet endroit-là. N'y allez pas ce week-end.
Voilà les empreintes de l'ours.
Cette transparence, le site de l'Office national de la biodiversité la propose aussi, mais avec quelques jours de retard, assumé. Une localisation en temps réel pourrait mettre l'ours en danger, nous répond le ministère de l'écologie.
On peut pas leur arracher un poil, quoi.
De quoi désespérer François Thibault, un berger qui a encore perdu 6 brebis cet été.
Si un jour il faut choisir entre le pastoralisme ou la chasse, ou même la randonnée et la présence de l'ours, les textes européens font que ce sera la présence de l'ours.
Ils étaient 2 en 96, ils seront demain 100 dans les Pyrénées et c'est tant mieux, dit Alain Rennes de l'association Pays de l'Ours à Dette.
On a la plus petite population d'ours d'Europe, 70 ours environ, ce qui est loin d'être une population viable. Donc la seule vraie bonne piste, c'est comment on vit ensemble.
Chacun accuse l'autre de camper sur ses positions. La médiation du préfet ours s'annonce tendue. En Ariège, Agathe Mahué pour France Inter.
C'est un chef-d'œuvre à jamais en travaux. La Sagrada Familia de Barcelone inaugure aujourd'hui sa 9e tour, la 2e plus haute de la basilique, imaginée par Gaudi, qui en avait prévu 18. Autant dire que le chantier, qui a commencé en 1882, n'est pas prêt de s'arrêter. Et c'est ce qui fait le charme et l'étrangeté de ce bâtiment qui ne ressemble à aucun autre. Reportage au pied de la Sagrada Familia, signé Marie-Hélène Ballestero.
Comme chaque jour de l'année, la Sagrada Familia attire des milliers de personnes. Touristes, badauds, vendeurs à la sauvette, le monument le plus visité d'Espagne, emblème de la ville de Barcelone, a retrouvé toute sa splendeur après sa fermeture pendant 7 mois à cause de la pandémie. Jordi supervise les visites guidées à la Sagrada Familia. Il travaille ici depuis 10 ans.
Pour moi, elle représente tout. C'est toute ma vie. C'est un endroit magnifique pour travailler, car tu vois des gens qui viennent de partout. En plus, tu travailles dans un lieu très emblématique. Comme tout le monde le répète, la Sagrada Familia est unique en son genre. Ce type d'architecture, tu ne la retrouves nulle part ailleurs. C'est une fierté d'avoir ça aussi près.
Un peu plus loin devant la façade de la Nativité, qui fut construite du vivant de Gaudi, les langues et nationalités se mélangent. Chantal et Gérard ont fait le voyage depuis Vaison-la-Romaine. Venus il y a quelques années, ils sont éblouis par l'avancée des travaux et la beauté du lieu.
Gaudi, c'est un architecte de génie, c'est merveilleux, c'est beau, c'est grandiose, ça paraît pas possible d'arriver à créer des œuvres aussi magnifiques.
Et aussi symboliques.
C'est symbolique.
En observant de près le chef-d'œuvre de Gaudi, on comprend mieux pourquoi il est classé au patrimoine de l'UNESCO. Aujourd'hui, il faudra lever les yeux au ciel pour suivre l'inauguration de la tour de la Vierge Marie et de son étoile lumineuse installée à son sommet qui va dès ce soir éclairer le ciel de Barcelone. Barcelone, Marie-Hélène Ballestero, France Inter.
Il a sans doute fini par se faire vacciner contre le Covid, c'est obligatoire pour entrer en Australie. Or, Novak Djokovic se trouve bien sur la liste des participants à l'Open d'Australie qui commence jeudi, on l'apprend ce matin. Enfin, c'est le moment d'ouvrir la 8e fenêtre de notre calendrier de l'Avent avec une idée de cadeau pour les fans de Truffaut ce matin ou pour ceux à qui l'on voudrait présenter Antoine Douanel. C'est un coffret de 5 films pour grandir. Avec Jean-Pierre Léaud, voici les aventures d'Antoine Doinel, Alexis de Meyer.
Antoine Doinel.
Voilà le cadeau parfait pour les cinéphiles. Antoine Doinel, qui n'avait pas donné signe de vie depuis 40 ans, se refait une beauté. L'intégralité de la saga romantique et romanesque est remasterisée en ultra haute définition. Allez, flashback en 58 avec le coup de foudre de Truffaut pour Jean-Pierre Léaud sur le casting des 400 coups.
Et vous aviez dit qu'il fallait un gars qui soit gouailleur. C'est pour ça, parce que le gars penseur, moi... Non.
Comme dans une série télé au long cours, on va suivre le héros interprété par Léo pendant 20 ans, de l'enfance à l'âge adulte. Et c'est particulièrement émouvant, comme nous le confirme Claude de Givray, scénariste de deux épisodes de la saga Doinel.
Le personnage de Jean-Pierre Léo, qui est un double de François, mais décalé. Donc il en a fait plutôt un personnage un peu poétique, un peu mal adapté. Parce que Truffaut était bien marqué par le réalisme poétique de Prévert et choses comme ça. Vous savez, la force de Truffaut, c'est qu'il puisait, surtout dans sa vie privée, mais en même temps, il vérifiait que tout ce qu'il pouvait mettre dans le fil appartenait à tout le monde.
Des 400 coups à l'amour en fuite, de baisers volés à domicile conjugal, en passant par le plus rare Antoine et Colette, ce coffret joliment illustré par Tom Ogoma contient aussi de précieux bonus, et notamment un entretien inédit avec le maestro Truffaut.
On peut s'appeler Colette Antoine.
L'amour en fuite de Souchon. Alors les aventures d'Antoine Doinel, c'est autour de 50 euros. Et pour les truffaldiens jamais rassasiés, on recommande vivement le beau livre François Truffaut, film par film, de nos camarades Christine Masson et Laurent Delmas. Et puis, si ça vous dit, il y a aussi un quiz sur la filmographie de Truffaut sur notre site franceinter.fr.
Merci Florence Paracuelos. La météo, Marie-Pierre Planchon.
La météo avec les œufs de Loué. Savourez les œufs fermiers de Loué, de poules élevées en liberté. Loué, libre par nature.
Marie-Pierre, toujours des intempéries ce matin.
Et oui, Nicolas, avec de fortes pluies hein, sur les trois quarts du pays, avec des vents forts soufflant jusqu'à 90 km par heure près de la Manche, de l'Atlantique, avec du grésil, mais aussi des coups de tonnerre. Et puis sur la façade est, de l'Alsace à la région PACA jusqu'à la Corse, on retrouve la perturbation d'hier qui a traversé le pays et qui donne donc de la neige ce matin, des Vosges aux Alpes, ainsi que sur le relief Corse. Et puis sur le golfe du Lion, la tramontane s'est levée, donnant un ciel plus lumineux. Et puis on a quand même une poche d'éclaircie où vous allez voir le soleil se lever, des Pays de la Loire au centre, en remontant sur l'île de France aux frontières du Nord-Est. Il fait 1 à Aubusson et en Lozère, 2 à Rennes, 3 à Poitiers, 4 à Paris, 6 à Lyon et à Bordeaux et 12 à Calvi.
Et peu de changements dans l'après-midi.
Et oui, le temps agité va persister, hein, Nicolas, avec des vents très forts près des côtes atlantiques et de la Manche, mais aussi en Corse, jusqu'à 110 km par heure, la tramontane jusqu'à 90, et seules les régions des Pays de la Loire encore à l'Île-de-France, en remontant toujours vers les Hauts-de-France, garderont un ciel plus clément, et il va continuer de neiger sur les reliefs de l'Est, des Vosges jusqu'à la Corse, et attention au risque d'avalanche très fort sur les Alpes cet après-midi, et on aura plus froid aussi, hein, 3 à Aurillac, 4 à Langres, pas plus de 6 à Strasbourg, 7 à Lyon et Toulouse, jusqu'à Lille, 8 à Paris, à Nantes, 11 à Marseille, 12 à Perpignan et 15 à Ajaccio.
Merci Marie-Pierre et à tout à l'heure. France Inter, il est 8h18, c'est l'heure de Géopolitique.